Here's the thing that people do not want to admit. The Pistons in 1989 and 1990 were the best team in basketball. I don't care how physical they were, how mean they were the best team.
Abdabilly, he'll square up and gun left wing. It goes!
They were a hard-working, took absolutely no prisoners, really didn't care who they upset, pissed off, whatever.
But the biggest problem was Detroit Pistons. They kicked their ass.
I think a lot of times teams would get on the court and feel defeated before the game even started because they went, oh my God, if something bad happens, they're just gonna kick our you-know-what.
And most teams can't play that way. So when they tried to play that way, they were already beat.
We shut teams down, period. That's what we do.
Alors, on parle de vice plus que de jeu sale avec OKC, mais du coup, vous allez me raconter, enfin, nous rappeler quelles équipes dans l'histoire de la NBA a été sale ou vicieuse. Donc, on démarre avec qui ? Alex Biggerstaff, parce qu'on est dans la thématique des Knicks, on y reste.
Ouais, moi, j'ai peut-être pris une équipe qui incarne pas forcément le vice, mais elle a opéré un tel niveau de brutalité qu'il y a forcément du vice là-dessous. Donc moi, je veux revenir sur les Knicks des années 90, parce qu'on a toujours parlé des Pistons, et Fred va en parler, bien sûr, parce que c'est hors catégorie pour moi, mais dans les années 90, peu de monde avait l'envie de se frotter aux Knicks, de peur de repartir avec des balafres après le match, à chaque fois. Emmené par Charles Oakley, on rappelle, Anthony Mason, Larry Johnson, Patrick Ewing, le combat physique était leur raison de vivre, intimider les adversaires c'était leur manière de faire, montrer les muscles était vital, leur affrontement notamment avec le Heat de Miami finissait la plupart du temps au sol ou front contre front, les coups déguisés, les écrans illégaux surtout, les coups dans les parties intimes également, le tout remué dans cette poêle brûlante qui était le Garden. Les Knicks étaient symbole de dureté, peut-être un peu plus que de vice, sauf que le principe aussi d'une équipe dure, c'est aussi de faire croire qu'elle joue tout le temps dans la légalité et non pas sur un fil, et les Knicks étaient assez vicieux pour ça. Ils ne répondaient pas aux coups, ils les imposaient, et en 96-97, notamment lors de gros affrontements avec les Pacers d'Indiana, Reggie Miller a hurlé sur tous les toits, à tous les micros possibles des médias, New York est l'équipe la plus dirty de toute la ligue, c'est-à-dire c'est l'équipe la plus vicieuse, la plus brutale de toute la NBA. La mentalité des Knicks contre les Pacers se résumait à, et c'est un joueur qui le dit lui-même, si tu peux pas le contrer, tu le fous au sol. Et ça marchait par tous les moyens possibles. Cette phrase magnifique est signée Anthony Mason. Et les Knicks des années 90 sont clairement une des raisons aussi, je pense, pour laquelle on dit qu'aujourd'hui, la NBA, elle est un peu trop aseptisée. Parce que David Stern s'est arraché.
Ce jeu-là n'est plus possible.
Et David Stern, le commissionnaire de la NBA à l'époque, s'est arraché 1000 fois les cheveux en voyant ce que montraient à la télévision les Knicks de New York. Mais ça faisait partie de leur jeu. Et juste pour aller encore plus loin dans le vice de la brutalité absolue, je pense que Charles Oakley, très respecté pourtant par ses pairs, était parfois aussi un fou furieux. C'est un journaliste de Chicago qui raconte une fois, Vince Goodwill, qu'il a vu Charles Oakley lors d'une réunion de remise de trophée gala un petit peu. Charles Oakley s'embrouillait avec un joueur adverse au point de prendre l'enfant qu'il tenait dans les bras, de donner cet enfant à la copine du joueur, et ensuite d'infliger une méga gifle dans la tronche du joueur. Donc c'est vraiment de la brutalité, mais avec respect. C'est un peu les Knicks, en fait, cette action-là, je trouve, résumée. Et pour finir, il y avait un autre garçon que je n'ai pas cité, Xavier McDaniels, qui a fait beaucoup de franchises. Le X-Man, lui aussi, a fait les Knicks. Et je pense que c'était le plus fou furieux d'entre eux. Et il incarnait magnifiquement ce vice, cette brutalité et le sans limite.
C'est pour ça que tu n'as pas pu jouer aux Knicks, Fred. T'es trop gentil comme gars.
Ben, honnêtement, quand je retors ça et quand je me rappelle effectivement ces années-là, il faut se rappeler quand même qu'ils ont incorporé entre-temps à Tres Sprewell qui avait étranglé son coach. J'avoue que j'étais pas forcément à l'aise d'aller jouer là-bas.
Alors, Détroit, bon là, c'est la référence ultime.
Mais en fait, quand l'équipe dont on parle pour le vice est caractérisée par un mec qui s'appelle Bill Laimbeer, mais qu'on surnomme le prince des ténèbres, tu te dis que forcément, c'est un petit peu compliqué. Et quand on parle des Bad Boys de Détroit, on parle bien sûr du coach Chuck Daly. Lui, par contre, impeccable. Un énorme charisme, ça a été le coach de l'équipe nationale. Et lui, il était de la première Dream Team, pour être plus précis, en 92. Donc vraiment un coach respecté, aimé. Mais qui a fait de son équipe quasiment une vraie mafia du basket. C'est-à-dire que chaque joueur était là pour apporter des choses différentes. Le leader, c'était bien sûr Isaiah Thomas. Petit, meneur, énorme compétiteur, clutch.
Insupportable.
Mais insupportable, provocateur, le cœur des Bad Boys. Le plus détesté, évidemment, je viens de le dire, c'est Bill Laimbeer, sans aucun problème. C'est le roi des coups de vis, du trash talk, des fautes qui rendent fou. Lui, ça partait en coup de poing direct. Je me rappelle de cette scène avec Larry Bird où ça se tape avec des coups de poing vraiment directs. Et ça, c'est quand même très impressionnant. Beaucoup de gens le considèrent encore comme le joueur le plus dirty de l'histoire. Hein. Un joueur complètement fou. Après, il y avait aussi des gens classe. Hein. Il y avait Joe Dumars qui était plutôt calme, tempéré et qui faisait un petit peu tâche dans cette ambiance de fou furieux. Mais il faut pas oublier évidemment Dennis Rodman. Dennis Rodman, un fou furieux parmi les fous furieux, mais qui à cette époque-là marquait encore des points. Et c'est vrai qu'on ne s'en rappelait pas. Et bien, j'ai envie de parler aussi de Rick Mahorn. Un déménageur, une brute épaisse, incroyable. Ensuite, John Sally. Long, ultra mobile, mais qui donnait les coups, évidemment, comme tout le monde. Winnie Jackson, surnommé le microwave, ça veut dire le micro-ondes, parce qu'il chauffait directement dès qu'il sortait du banc. Ensuite, cette équipe était vraiment une équipe tellement fantastique, parce que ça jouait bien au basket malgré tout, mais ça donnait beaucoup de coups. C'est cette équipe qui avait empêché, surtout, Michael Jordan d'accéder aux finales et de gagner les titres, évidemment. Cette équipe a gagné deux titres, en 89 et en 90, une équipe qui a laissé des traces. Parce que physiquement, c'était dur. Parce que physiquement, c'était solide. Et surtout, ils avaient un peu la même réflexion que tu as dit tout à l'heure. Quand tu ne peux pas contrer, tu le mets au sol. Bah, c'était à peu près leur truc. Si tu viens dans la raquette, tu vas le sentir. C'était eux, leur marque de fabrique. Donc voilà, une équipe qui a marqué une époque. Un Bill Laimbeer qui a commencé par jouer en Italie, parce que les gens n'y croyaient pas trop, à jouer au Cave. Et ensuite, est allé dans cette équipe. Et vraiment, juste une équipe incroyable. Petit truc un petit peu drôle sur Bill Laimbeer. Bill Laimbeer, c'est quand même le seul joueur qui a dit « Je suis le seul joueur de la NBA qui gagnera moins d'argent que son père » parce que son père est extrêmement riche et il vient d'une famille très riche et bien éduquée,
malgré
etc.
Tout, c'était un bad boy.
Et c'était un bad boy absolu.
Ça les a suivis longtemps quand même. Hein.
Ben oui, mais c'est normal.
Et aujourd'hui, il leur manque peut-être un peu de ça.
Dans peut-être.
Cette équipe, là,
peut-être.
Parce qu'ils sont pas mauvais.
Si,
quand
si,
même.
Manque, ouais.
C'est une très bonne équipe.
Il manque un peu de vis aux Pistons.
Moi, je trouvais que Isaiah Stewart était un petit peu sur ce truc et finalement, ça s'est délité un
peu. Il est plus
brut
que vis.
Ouais, c'est ça.
Il aurait pu jouer au Knicks des années 90.
Ouais,
je pense,
je suis d'accord. Ça manque de vis.
Et alors, Félix, qui est à San Antonio, va nous parler d'une équipe qu'on ne cite pas dans les toutes premières quand on parle de vis ou de dureté. Et c'est bien une équipe des Spurs dont tu nous parles, Félix.
Ouais, et des Spurs des années 2000 pour être précis. Alors évidemment, je devais les prendre eux parce que je suis à San Antonio, donc c'est contractuel, j'ai pas le choix. Si je parle pas d'eux, tous les habitants de la ville vont m'en vouloir. Mais surtout,
ce
qui est intéressant,
c'est
que
surtout, hein, Félix.
Non, mais en vrai, là, c'est pas de la critique parce que Duvis, il en faut pour gagner. Et c'est justement le parfait exemple de cette franchise qui a quand même une image d'une franchise qui est classe, qui est propre, bien sous tout rapport, où rien ne dépasse. Mais c'est pas vraiment comme ça que leurs adversaires ils les percevaient dans les années 2000, une décennie où les Spurs ont quand même pris 3 titres en 2003, 2005, 2007. Et là où on peut les comparer avec le Thunder de cette année, c'est qu'ils sortaient du lot par une espèce de froideur émotionnelle et d'une capacité à flirter avec la limite au niveau des coups de sifflet. Et donc tout ça, ça va évidemment avec une défense ultra physique et une très grosse expérience. Et pour le côté dirty, on avait un homme qui incarnait ça à merveille, c'est Bruce Bowen, qui était une figure des Spurs dans cette décennie. Il a d'ailleurs son maillot qui est retiré. Il était adulé à San Antonio, mais détesté par toute la ligue. C'est un très très gros défenseur extérieur et sa spécialité c'était de contester les tirs en avançant son pied sous le shooter adverse. Donc il y a plein de joueurs qui accusaient Bowen d'essayer de les blesser.
Ah bah, aujourd'hui, il jouerait pas. Hein.
Aujourd'hui,
ça serait vraiment, ça serait vraiment sanctionné.
Bruce Bowen qui est passé à Évreux, hein, entre autres.
Oui,
c'est incroyable.
Et peut-être qu'il faisait ça aussi en France, mais
il n'avait pas besoin, il mettait 25 à tout le monde, par contre.
Mais en tout cas, en NBA, ça faisait vraiment grincer des dents, parce que, et pas forcément que à cause de cette défense très limite sur les tirs. Par exemple, lors des demi-finales de conférence entre les Spurs et les Suns en 2007, on a notamment Amare Stoudemire qui s'était bien énervé après le match. Il avait assuré, je cite, « Bruce Bowen m'a frappé volontairement à l'arrière de mon talon. Il m'a presque blessé. J'espère que la NBA, le commissionneur, y jettera un œil parce que c'est un jeu vraiment sale. » Et Stoudemire, lors de ce même match, il avait insisté en assurant que Bowen, c'était pas le seul problème aux Spurs. Je cite toujours ce que dit Stoudemire. Les Spurs sont une équipe qui joue sale. Manu Ginobili m'a donné un coup de genou dans l'entrejambe exprès pendant la saison régulière. Donc, et pendant cette fameuse série entre les Spurs et les Suns en 2007, il y avait eu un événement marquant qui résumait pas mal le vice de ces Spurs-là. C'était un violent coup de hanche de Robert Horry sur Steve Nash. Je ne sais pas si vous avez cette image en tête. On était à la fin du match 4 et alors que les Spurs se dirigeaient vers une défaite, Robert Horry arrête le chrono en balançant violemment Steve Nash sur la table de marque. Il y avait donc eu une échauffourée qui éclate avec Stoudemire et un certain Boris Diaw qui se lève du banc en furie pour demander des comptes à Robert Torrey. Au final, les Suns ils avaient quand même gagné le match, mais la série avait basculé puisque la NBA avait décidé de suspendre Robert Torrey côté Spurs, évidemment, mais aussi Stoudemeyer et Boris Diaw pour une rencontre. Donc le match suivant était un peu tronqué parce qu'il manquait deux joueurs majeurs du côté des Suns et les Spurs avaient fini par remporter les deux derniers matchs pour se qualifier en finale de conf. Et quelques semaines plus tard, ils avaient été sacrés champions NBA. En partie donc grâce à cette action d'Horty qui a fait basculer la série contre les Suns. Et c'était la meilleure preuve, je trouve, que les Spurs savaient jouer avec les limites pour construire leur succès dans ces années 2000.
Et alors, est-ce qu'on met du respect sur Bruce Bowen ?
Évidemment.
Grande carrière. Mais il ne s'était pas fait péter le nez, même Steve Nash.
Peux pas aller jusqu'à blesser, hein, je suis désolé. Hein. C'est très bien d'être dur, c'est très bien d'être un gros défenseur, ce que vous voulez, mais tu peux pas.
Ouais, franchement, flirter avec la limite, moi, ça me pose pas de problème, mais là, c'est plus que la limite. Si tu tentes de blesser le mec, c'est plus que la limite et ça me dérange.
Mais le pied en dessous d'un mec qui saute, c'est abominable.
Oui, mais dans ce cas-là, les joueurs qu'on a cités, bah, Bill Laimbeer, lui, s'il pouvait te blesser, il te blessait.
Il serait en prison, du coup.
C'est ça.
Bon, très bien.
En fait, c'est l'exemple type, Pierrot, du genre de joueur que t'adores si il est dans ta franchise, mais par contre, que tout le monde déteste dans les autres.
C'est Pep ou Sergio Ramos, tu vois.
Alors, est-ce que, en préparant l'émission, Fred était parti sur Nanterre 2012-2013 quand même. Hein, sur
ben oui, ben on m'a parlé d'une équipe d'Horty, j'ai pensé à Stephen et toutes les équipes où Stephen a joué.
Il y avait qui dans cette équipe ?
Je ne me rappelle plus très bien, mais je me rappelle que lui...
David Corozin ?
Oui, ben oui, je ne suis pas sûr que lui il soit vraiment d'Horty.
Pas très d'Horty.
Mais Stephen était d'Horty, donc je me suis dit que peut-être c'était un peu le Bill Laimbeer
de Nanterre. Joe Passam était d'Horty ?
Pas du tout.
Très bien, c'est donc l'heure du quiz.